en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Pour réaliser des prévisions météorologiques, les scientifiques travaillent non seulement à partir de données climatiques, mais aussi de données océaniques. En effet, l'océan influe sur le climat de par sa masse, sa capacité thermique et chimique. Pascal Delecluse, directeur adjoint de la recherche à Météo France, est venu faire un récapitulatif des connaissances dont les scientifiques disposent en matière de courants marins, tels que le Gulf Stream, le Kuroshio, El Niño, la force de Coriolis ou encore le transport d'Ekman, ainsi que de leur impact sur le climat. Cette conférence que nous vous proposons d'écouter dans quelques instants s'est déroulée au bureau des longitudes début novembre 2007 à l'Institut de France. Et pour suivre au mieux la conférence de Pascal Delecluse, nous vous invitons à télécharger le support visuel qui accompagne ses propos. Ce document se trouve sur notre site internet canalacademy.com à la suite du texte qui accompagne l'émission. Tout de suite, Pascal Delecluse sur le thème des courants océaniques et de leurs conséquences sur les perturbations climatiques.
Les cartes qui sont présentées ici vous représentent en fait ce qui s'est passé l'année dernière. On démarre en automne 2006 et je voulais illustrer par cet exemple-là qu'on a des saisons qui, en France, qui se suivent, qui ne se ressemblent pas forcément. En automne 2006, vous avez une anomalie, la dernière barre c'est l'automne 2006, ça c'est les 50 années qui précèdent depuis 1950 et vous voyez qu'on a une amplitude beaucoup plus élevée. On a un automne qui était particulièrement chaud, qui fut suivi d'un hiver également chaud. Et puis en automne, on a eu un mois d'avril absolument exceptionnel, puisqu'on est monté à une température en France de plus de 4 degrés, que ça a été suivi par un mois de juillet qui a été effectivement, lui, plutôt frais. Donc on voit toute la richesse de la variabilité, et on peut se poser des questions sur ce que représente cette variabilité, et si effectivement c'est une trace de variation climatique. Pour vous représenter une autre carte de cet été 2007, c'est que même si en France, en particulier dans le nord de la France, en Angleterre, on avait des conditions plutôt froides, dès qu'on regarde une carte globale, la taille des points est en fait proportionnelle à l'anomalie observée. Donc on avait fait une goutte froide dans un monde qui était chaud et continue à être chaud et qui depuis plus d'une dizaine d'années continue à battre des records au niveau de son réchauffement global. Et ça, c'est un point qui a été au cœur en fait, des observations rapportées par le GIEC. Vous avez ici deux cartes d'observation de température qui vous traduisent l'évolution observée depuis 1900. Cette première carte représente l'évolution globale, donc avec une pente depuis le début de l'ère industrielle, enfin même depuis 1900 jusqu'à l'an 2000. Et le GIEC a mesurer en fait, à exprimer cette augmentation de température en disant que en fait on avait depuis 1900 une augmentation de 0,74 à l'échelle du globe et que ce qui était impressionnant dans cette carte c'est qu'en fait la vitesse de réchauffement augmente et le réchauffement qu'on observe sur la dernière décennie est en fait beaucoup plus important que ce qui a été observé à l'échelle du siècle. Et ce que l'on voit sur la carte globale, en fait, ça se voit sur la carte de France. Alors quand on aborde une échelle plus petite comme celle de la France, on a beaucoup plus de variabilité dans le signal. C'est la même amplitude dans les deux cartes. Donc vous voyez que le signal en France est à peu près plus de deux fois le signal qu'on observe à l'échelle globale, mais que quand on lisse, on a bien ce même type d'accélération du signal en France. Suite à ces observations, le GIEC en fait a exprimé que cette observation était liée à l'évolution des gaz à effet de serre et qu'on avait observé depuis le début de l'ère industrielle une augmentation conséquente du dioxyde de carbone. Alors ici, c'est depuis l'an 10 000 jusqu'au temps présent et ici, c'est en fait un zoom sur 1800, 1900, 2000. Donc on voit l'accélération de l'augmentation en dioxyde de carbone. On voit une accélération également en concentration de méthane et ainsi qu'en protoxyde d'azote. Cette augmentation de concentration est liée aux activités humaines, qu'elles soient industrielles, que transport, l'agriculture ou la déforestation. Donc on a des causes multiples à cette phénoménologie et on reconnaît dans ce signal la main de l'homme. Alors ça, ça fait partie des exercices d'attribution détection qui ont été présentés lors du quatrième rapport du GIEC. La courbe en bleu représente l'évolution du système avec une concentration en gaz à effet de serre constante, alors que les courbes en rose représentent des exercices de simulation du système, où cette fois-ci, on a spécifié l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. Vous voyez que ces deux signaux Bon, ils ont une enveloppe au départ où ils ne sont pas significativement séparables, mais quand on aborde les dernières 50 années, on a clairement une différenciation entre la courbe avec effet de serre et la courbe sans effet de serre, ce qui est en fait une preuve de la détection de ce signal. Alors ce signal, en fait, on le voit maintenant dans toutes les régions du monde, on le voit dans l'hémisphère nord, mais on le voit également dans l'hémisphère sud, on le voit dans l'océan, comme ici, donc c'est la carte globale, ça c'est la carte sur les continents, et ça c'est la carte sur l'océan. On le voit absolument dans toutes les composantes du système climatique. La courbe bleue, c'est un ensemble de simulations qui sont faites avec différents modèles de complexité un petit peu différentes, où la concentration des gaz à effet de serre est constante. Donc ça représente en fait la variabilité naturelle du climat. Alors, dans ce système, moi je vais un petit peu m'intéresser au rôle de l'océan, et ce que je vais vous présenter, c'est en fait un petit peu plus académique sur la façon dont se comporte l'océan et quel est le contrôle qu'il peut exercer dans le système climatique. Alors, je vais faire une première partie dans laquelle je vais vous caractériser l'océan. Ça va être des notions de base sur la physique et la dynamique de l'océan. Une deuxième partie dans laquelle je vais donner des exemples du comportement de l'océan vis-à-vis du climat et comment il peut intervenir. Et puis, la partie 3, ce sera un petit peu plus ouvert. Je vais dire, c'est un petit peu question pour le siècle à venir, où peut en fait intervenir l'océan. Alors, cette première partie, je vous rappelle quelques chiffres. L'océan, c'est 70% de la surface de la Terre, c'est 97% de l'eau de la Terre. Donc, c'est vraiment un très, très gros réservoir, à la fois de l'eau, mais à la fois également de composants géochimiques. Ici, je vous parlerai essentiellement de son rôle dynamique et physique. Donc, la température de l'océan, en gros, on va de moins 1,8 en région polaire, jusqu'à 32 degrés Celsius dans les mers semi-fermées. Par la région la plus chaude, c'est vraiment l'océan Indien, mer d'Arabie, toute la ceinture équatoriale, où là, on peut atteindre des eaux à 32 degrés. Mais 75% de l'océan, c'est-à-dire vraiment le gros réservoir de l'océan, a une température thermostatée, en fait, entre 0 degré, 4 degrés. Ça va être la température moyenne de ce gros réservoir. On caractérise l'océan non seulement par sa température, mais par la quantité de sel qu'il contient. Et pour le sel, on le définit en grammes de sel par kilogramme de mer. Donc on l'appelle cette unité PSU. Les valeurs sont entre 33 et 37 PSU. Et on peut dire qu'en fait, on a 75% de l'océan qui est entre 34,4 et 34,7 PSU. Et puis on combine, l'océan c'est un fluide, hein, donc on n'a pas d'équation de gaz parfait, mais on calcule à partir de la température et la salinité par une relation empirique, sa masse volumique. Donc la masse volumique de l'océan, je la désigne par ρ, ça dépend de la température, de la salinité et de la pression, donc le niveau dans lequel on va se trouver dans l'océan. Et on considère que l'océan, il a une masse volumique moyenne, ρm, qui est de l'ordre de 1025 kg par mètre cube. Et en fait, on en dérive une unité qui est en fait sigma, qui est égale à la masse volumique de l'océan moins 1000. Donc c'est pour ça que très souvent, quand je vais vous parler de l'océan, on va caractériser ce qui se comporte sur des lignes d'égale masse volumique. On va les appeler les isopycnes et on va parler d'anomalies en fonction d'isopycnes. Et on aura une valeur autour de 25 quand on va caractériser les isopycnes typiques de l'océan. Donc ça confère à l'océan des propriétés. Il a une capacité thermique qui est très supérieure à celle de l'air. Si on chauffe d'un degré 2,5 mètres d'eau d'océan, c'est l'équivalent de chauffer toute la colonne d'air. Donc il a une inertie thermique forte vis-à-vis du système. Et en fait, ce sont ces propriétés qui donnent à l'océan un rôle assez spécifique dans la variabilité du système climatique. Alors quelques éléments de dynamique, juste pour vous rappeler des notions que vous avez vues il y a sans doute assez longtemps. L'océan, fondamentalement, c'est vraiment un fluide sur une Terre en rotation. Donc la Terre tourne et les mouvements océaniques vont être entraînés et la force dominante qu'on voit dans tous les mouvements océaniques, comme l'océan c'est quand même un fluide lent, ça va être la force de Coriolis qui va s'imposer. Donc les mouvements océaniques seront déviés vers leur droite dans l'hémisphère nord, vers leur gauche dans l'hémisphère sud et on aura cette imprégnation de déviation des trajectoires va se faire sentir sur tous les mouvements qu'on va observer dans l'océan. Quand on regarde quels sont les moteurs qui vont entraîner la circulation océanique, on distingue en fait deux types de moteurs différents. Le principal moteur de la circulation océanique, ça va être l'entraînement qu'exerce l'atmosphère à la surface de l'océan. L'atmosphère, on peut l'identifier par la trace des vents à la surface. Donc sur la Terre en rotation, on aura les vents d'alizés dans la ceinture équatoriale. on aura les vents d'ouest aux moyennes latitudes, et puis ensuite on aura les vents polaires qui vont être liés à l'apparition des cyclones, anticyclones polaires. Donc, bien sûr, j'ai reproduit ici les deux cartes en été et en hiver qui vous représentent les systèmes de vent, parce qu'il faut vraiment différencier avec le phénomène de mousson, il faut distinguer les deux saisons pour bien comprendre comment se décline la circulation océanique. On reconnaît bien là les traces des alizés en été comme en hiver. Et puis la ligne marron ici vous donne la présence de la zone tropicale de convergence. Et c'est là qu'on va différencier en fait les flux de mousson. On aura pendant l'été la mousson qui va monter sur l'Inde et sur le plateau tibétain. Et au contraire, on va inverser, on aura la mousson d'hiver, donc il y aura la mousson indienne. On aura la mousson africaine qui pénètre en été et on a également la mousson américaine qui arrive. Et ça, ce sera un signal qui va être très fortement modulé suivant les saisons. Donc on a une partie de l'entraînement par les vents qui va être stable toute l'année, puis une partie qui va être très saisonnière en fonction des fluctuations de saison de mousson. Et ça va imprégner la circulation océanique, ça va se voir sur l'océan. Qu'est-ce que fait le vent dans l'océan ? Alors ça date en fait des premières observations qui ont été faites dans les zones polaires. L'origine, ça a été mis en évidence à partir de la dérive des glaciers en zone polaire par Ekman. Et ce qui avait été observé, c'est que quand on voyait un glacier se déplacer à la surface de l'océan, la trajectoire de dérive de ce glacier n'était pas dans le lit du vent. Donc on a cherché à comprendre quels étaient les principes qui contrôlaient la trajectoire de dérive des glaciers. Il se trouve que ces glaciers, bon, ils ont une petite partie émergée, mais la grande partie, c'est celle qui est à l'intérieur de l'océan. Et donc, ils intègrent d'une manière très efficace, en fait, ce qui se produit à l'intérieur de la couche de surface, de la couche limite océanique. Ce qui se produit, en fait, c'est que quand on a le vent qui est schématisé ici par cette flèche-là, le vent entraîne la couche de surface, mais tout de suite, la première force qui va se mettre en place, ça va être l'entraînement lié à Coriolis, à la déviation terrestre. Donc cette déviation dans l'hémisphère nord va entraîner le courant sur la droite du vent, et ce qui fait qu'en fait le courant de surface est à 45 degrés du lit du vent. Donc le courant de surface est ici, et au fur et à mesure qu'on va considérer la trace de cette circulation en rentrant dans l'océan, on va avoir en fait un signal qui va être exponentiel en fonction de la profondeur, donc son amplitude va diminuer, et au fur et à mesure qu'il va s'enfoncer dans l'océan, il va tourner. Donc on est à 45 degrés du lit du vent en surface, et ensuite on tourne sur la droite jusqu'à se retrouver inversé à la trajectoire du vent quand on est à la base en fait, de cette couche qu'on appelle la couche d'Ekman, la couche qui va sentir la trace du vent en surface. Alors, il se trouve que cette couche d'Ekman, qu'on appelle aussi la spirale d'Ekman, bon, on a exactement l'équivalent dans l'atmosphère, on a la même spirale qui se produit au niveau de la trajectoire des nuages dans l'atmosphère. Dans l'océan, on a ce type de structure, avec une rotation à droite dans l'hémisphère nord, à gauche dans l'hémisphère sud. Mais ce qui est plus intéressant même que la spirale, et c'est quelque chose qu'on fait en fait fréquemment, c'est qu'on intègre la dynamique sur toute la couche de surface. Et quand on intègre depuis la surface jusqu'à la profondeur où on est dans le sens inverse du signal de surface, on définit à ce moment-là une profondeur qu'on appelle la profondeur d'Ekman, et le transport résiduel à ce moment-là, c'est un transport qui lui est à 90 degrés du lit du vent. Et c'est ce qui nous sert à définir le transport d'Ekman dans l'océan et qui définit en fait les grandes caractéristiques de la circulation. Alors pour vous illustrer ce transport d'Ekman dans l'océan, vous avez, bon, ici on va commencer par les observations. C'était une première carte où les flèches en orange, ici les petites flèches, c'est la trace du vent. Donc on reconnaît les vents d'ouest qui sont aux latitudes tempérées. Et puis ici, c'est la trace des alizés. Et puis les flèches ici, les doubles flèches plutôt en vert, vous donnent le transport d'Ekman intégré qui correspond à ces alizés. Et donc vous voyez que dans un océan comme l'Atlantique, on avait en fait la masse qui convergeait ici vers le nord, là vers le sud. Et en fait, on a une accumulation de masse au centre de l'océan Atlantique. Alors c'est ce qui est représenté ici. Si vous avez un vent de type anticyclonique, donc ça représente, si vous voulez, les vents d'ouest dans l'Atlantique et ici les alizés, on a convergence de masse vers le centre, et ça se traduit par une surface océanique qui monte, et puis la base de la couche de mélange, de la couche de surface, qui, elle, s'approfondit. On a une espèce de dilatation de la colonne de surface, de la couche de surface, au centre de cette circulation. Alors, dans l'Atlantique, cette grande région de downwelling, d'approfondissement, enfin de convergence océanique, c'est ce qui est situé ici, c'est la mer des Sargasses, et c'était une région qui était bien connue des navigateurs, et ils cherchaient à l'éviter, en fait. Donc ça, c'est le processus que les océanographes appellent le downwelling de plein océan. Ici, vous avez la circulation inverse. Si le vent tourne dans l'autre sens, vous allez au contraire entraîner la masse de l'océan de surface loin de cette divergence des vents. Et ça, ça va se traduire par une remontée de la base de la couche de mélange océanique et un enfoncement de la couche de surface. Et ce phénomène, c'est ce qu'on a appelé l'upwelling, c'est la remontée des eaux de fond océaniques. Alors, ce qu'il faut bien, un fait qui est pas très, qui est assez mal illustré par cette figure, c'est qu'en fait, les mouvements ascendants et descendants qui sont indiqués ici, en surface et à la base de la couche de mélange, n'ont pas la même amplitude. Le mouvement de la couche de surface est 100 à 200 fois plus petit que le mouvement de la base de la couche de mélange. Et ce qui est en fait observé dans l'océan, c'est pas tellement les mouvements de la couche de surface, mais c'est beaucoup plus les mouvements de cette interface qui sépare les eaux de surface et les eaux de fond, qui, elle, peut avoir des amplitudes de dizaines à la centaine de mètres dans ces mouvements, alors qu'en surface, on va atteindre des mouvements de l'ordre du centimètre. Alors, deux cas particuliers de ces mouvements, c'est quand on est à l'équateur, ce cas-là, ou en présence de côtes. Prenons d'abord le cas équatorial. Donc la ligne ici au milieu vous représente la position de l'équateur. À l'équateur soufflent les alizés. Donc les alizés, globalement, suivent l'équateur, soufflent le long de l'équateur. Et puis le mouvement qu'ils vont provoquer, ça va être un mouvement vers la droite dans l'hémisphère nord, vers la gauche dans l'hémisphère sud. Donc la masse en fait va avoir tendance à s'échapper de l'équateur et on va provoquer une remontée des eaux profondes à l'équateur. Donc en fait, ce que l'on appelle ce phénomène de divergence d'Ekman équatoriale est à l'origine de la situation très particulière de l'équateur parce qu'on a des remontées d'eau froide à l'équateur et ça c'est manifeste dans les trois océans. On le voit dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien, comme dans l'océan Atlantique. On a des eaux froides qui remontent à l'équateur, et l'équateur est une région où la zone qui sépare l'océan de surface de l'océan profond est très proche de la surface et peut conduire à des températures très froides dans une région chaude. L'autre cas particulier qui est indiqué ici, c'est ce qui produit quand on est cette fois-ci mis en présence d'une côte. Si on a le vent qui souffle le long de la côte et qui traduit qu'il y a dans l'hémisphère nord un transport vers le large, à ce moment-là, quand les eaux partent, elles doivent être compensées par une arrivée des eaux profondes, et c'est les régions d'upwelling. Alors c'est très important en fait pour la pêche, parce que les grandes régions de pêche du monde sont effectivement les régions où les propriétés en fait de l'océan profond, tous les sels nutritifs de l'océan profond, peuvent revenir en surface. Donc c'est bien connu des pêcheurs, et c'est par exemple le cas de ce qui se produit le long de la côte Maroc-Mauritanie, où on a un upwelling très efficace. Le vent peut expliquer la circulation de surface de l'océan, mais ce qu'on voudrait savoir, c'est ce qui se passe un petit peu plus au fond dans l'océan. Et pour ça, on introduit la notion de vorticité. Alors, la notion de vorticité, en fait, c'est lié à la notion de rotation d'une particule. Et on définit, en fait, formellement la vorticité par zeta, qui est égale à rotationnel de U. Donc, U, c'est le vecteur vitesse horizontale, les composantes UV. On en calcule le rotationnel et on fait le produit scalaire avec K, la verticale. Donc sur les composantes, en fait, ça se décline comme étant la dérivée partielle de V, qui est la vitesse méridienne, moins la dérivée partielle de U par rapport à Y, U étant la vitesse zonale. Et zeta sera positif, par exemple. Ici, vous avez une image de vorticité positive, donc dans inverse des aiguilles d'une montre, et ça vous donne le type de cisaillement de courant qui est associé au niveau U, au niveau V, à cette image de la vorticité. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de vorticité? Parce que la vorticité dans une sphère en rotation, c'est une propriété qui est conservative. Et puis, quand on a une particule fluide de l'océan, elle va avoir sa propre vorticité relative, zeta, et il va falloir combiner cette vorticité relative avec celle qu'elle a parce qu'elle est sur une planète en rotation. On est sur une planète en rotation, donc toute particule a une vorticité intrinsèque qui est la vorticité planétaire, et celle-ci, elle est donnée par F. F, c'est le paramètre de Coriolis qui dépend de la latitude et qui caractérise en fait la valeur de cette vorticité à une latitude donnée. Donc la vorticité qui va se conserver, ça va être la vorticité totale. Et cette vorticité totale, c'est lié à l'addition de la vorticité relative plus Coriolis F. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez une particule qui est à l'équateur, à l'équateur, F est égal à 0. Donc si vous avez une particule dont la vorticité relative est nulle, zeta est égal à 0, et que vous la déplacez vers le pôle, elle va en fait se trouver dans un milieu où F est positif. Donc il va y avoir une différence de vorticité qui va être négative, qui va être égale à moins F. Donc elle va se mettre à tourner dans le sens négatif. Donc une particule qui se déplace vers le pôle va être entraînée dans un mouvement anticyclonique, et une particule qui se déplace du pôle vers l'équateur va être entraînée dans un mouvement qui va être positif, donc lui qui va être cyclonique. Donc on va déclencher dans la masse fluide des mouvements de rotation lorsqu'on va le changer de latitude. Alors il se trouve que cette conservation de la vorticité est à la base de la grande théorie de la circulation des bassins océaniques. Ça provient en fait d'un concours entre plusieurs océanographes qui ont eu lieu juste après la Seconde Guerre mondiale. Et ils se sont posé la question de savoir mais qu'est-ce qui explique la circulation qu'on observe dans l'océan Atlantique. Dans l'océan Atlantique, on voit une grande circulation qui est anticyclonique, avec une grande disparité entre les bords est et les bords ouest, et ils voulaient comprendre l'origine de ces courants de bord ouest. Donc pour eux, c'est Sverdrup en fait qui a sorti le premier de la théorie en 1947, et il a expliqué le mécanisme de circulation générale dans l'océan Atlantique Nord. Et il a montré que c'était le forçage par le vent qui expliquait cette circulation, mais que ce n'était pas un entraînement direct par le vent. Ce qui se produisait, c'était en fait une circulation qui répondait à cette conservation de vorticité. Alors ce qui se passe, c'est, vous avez ici un bloc schématique de l'océan Atlantique, vous avez la titre, donc 45 degrés nord, 15 degrés nord, donc ici la région des Alizés, ici la région des vents d'ouest. Donc on a les vents qui sont dans ce sens-là, ici, donc vous avez ici représenté la trace des vents, ils sont positifs vers 45 degrés, ils diminuent, ils s'annulent au milieu de la boîte et ils deviennent positifs, ils ont une composante zonale négative, quand on passe en dessous de 30 degrés. Donc ça, c'est le schéma des vents. Quand on regarde le rotationnel associé à ce schéma des vents sur l'Atlantique, on a un rotationnel qui est représenté ici, qui est négatif et qui est négatif maximum au milieu du bassin. Et le fait d'avoir un rotationnel de vent négatif sur l'océan Atlantique provoque un entraînement des masses océaniques depuis le nord vers le sud. Donc en fait, ce qui se produit, c'est que les masses océaniques dans l'Atlantique glissent du nord au sud dans tout le bassin. Et puis quand on intègre l'ensemble de ce mouvement, on se rend compte que pour réaliser cette conservation de vorticité, ça se traduit par des trajectoires qui ont en fait cette allure-là. Donc toute la masse fluide descend de A vers B, et ça c'est vraiment une théorie linéaire, et elle a été extrêmement bien vérifiée dans les océans. Et après, effectivement, ce qu'il fallait expliquer, c'est il se trouve que si vous coupez l'océan à une latitude donnée, l'océan, le flot de masse est nul, donc il y a autant de masse d'eau qui va vers le nord que de masse qui va vers le sud. Donc pour équilibrer ce bilan de masse, il fallait trouver où reviennent les eaux océaniques. Alors, il y a plusieurs théories qui ont été proposées pour le retour des eaux océaniques. Et la théorie de Sverdrup, en fait, elle va jusqu'à calculer le courant de retour. Donc, la théorie de Sverdrup prédit que tout le courant de retour de ce flux de masse qui va vers le sud revient sous forme d'un flux de masse sur le bord ouest, dont on a exprimé, en fait, le transport, la valeur, dans une unité qui porte son nom, le Sverdrup. Le Sverdrup, c'est l'unité qu'utilisent les océanographes pour mesurer les flux de masse. C'est en millions de mètres cubes par seconde. Et en fait, ces courants océaniques sont liés à la conservation de la masse. Donc, il y a toute la masse qui est partie vers le sud et elle ne peut revenir que d'une seule manière. Et ils ont essayé le frottement de fond, ils ont essayé le frottement de surface. Et en fait, seul le bord ouest et le frottement sur le bord ouest est capable de supporter le courant de retour. Malheureusement, quand on va jusqu'au bout des calculs, on sort de la théorie linéaire. Quand on est dans une théorie où on doit introduire les termes de frottement, les termes d'entraînement du courant sur lui-même, on sort de la théorie linéaire, mais on peut montrer pourquoi et pour quel principe existe aujourd'hui le Gulf Stream. Alors ces courants de bord ouest, vous avez ici une carte qui vous montre un peu, qui vous schématise la circulation océanique. Regardez par exemple déjà l'Atlantique. Donc en Atlantique, à cette réponse rotationnelle de vent négatif qu'il y a ici, on a donc le courant ici qui descend le long de la côte du Sahara Mauritanie. On a la branche d'Alizée qui est ici. Et puis, on a le retour par le courant du Gulf Stream. Alors, ce qui se passe, c'est que dans tout le bassin, on a le flux vers le sud. Le courant du Gulf Stream, lui, il revient sur les quelques 100 km le long de la côte. Donc on a une disparité d'échelle extrêmement forte, puisqu'on fait revenir ici, en 50-100 km, tout le flux qui a eu tout l'ensemble du bassin pour revenir. Donc reviennent dans les courants de bord ouest. Alors vous avez le Gulf Stream ici, vous avez le Kuroshio l'océan Pacifique, vous avez l'équivalent dans l'hémisphère sud, avec cette fois-ci vous inversez les sens de rotation puisqu'on change d'hémisphère. Donc on a ici des courants ouest le long du Brésil. On en a également je ne vais pas distinguer l'Indien, parce que l'Indien, avec le phénomène mousson, on alterne complètement. Simplement, on a pendant l'été, on a effectivement un courant des Somalies qui se met en place vers le nord pendant la mousson de sud-ouest, qui est l'équivalent d'un courant de bord ouest et qui est en fait l'exemple le plus spectaculaire d'émergence d'un courant de bord ouest dans un océan. Mais il est saisonnier, celui-là. Donc les grands courants océaniques, le Gulf Stream, les courants ici, le courant du Brésil, l'équivalent dans le Pacifique Sud, le Kuroshio et tout, sont des courants non linéaires qui assurent en fait le retour du transport de Sverdrup. Et c'est vraiment la théorie numéro un de la circulation générale. La deuxième raison pour laquelle l'océan bouge, c'est que l'océan n'est pas seulement dynamique, mais il est également forcé par la thermodynamique. Et en particulier, l'océan et l'atmosphère échangent aussi de la chaleur et de la masse, parce que l'océan évapore et l'atmosphère a des précipitations, donc ils échangent de l'eau. Ceci met en place une machine, mais cette fois-ci thermodynamique, et les flux, les échanges de chaleur et les échanges en eau contribuent à modifier la masse volumique océanique. Et comme cette masse volumique océanique n'est plus homogène, ça va créer des gradients de pression à l'intérieur du fluide qui vont eux aussi engendrer des mouvements. Donc, si on regarde le flux de chaleur, l'océan, en fait, les zones chaudes ici, ce sont les zones où l'océan capture la chaleur au détriment de l'atmosphère. Et les zones bleues, ce sont les zones où, au contraire, l'océan renvoie de la chaleur vers l'atmosphère. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, les zones équatoriales, l'océan prend de la chaleur à l'atmosphère. Et en fait, ce sont les régions, par exemple ici où il prend jusqu'à 200 watts par mètre carré, c'est en fait le cœur de la région d'upwelling, de remontée d'eau froide. Ce qui vous prouve bien que en fait, ces échanges de chaleur sont bien liés à la dynamique et ne sont pas que thermodynamiques. Mais quand l'océan ici est froid, il capture jusqu'à 200 watts par mètre carré à l'atmosphère. Ces régions-là, les régions bleues, là c'est le Kuroshio, là c'est le Gulf Stream, ce sont les régions de courant de bord ouest. Les courants de bord ouest ramènent des eaux chaudes vers les latitudes tempérées et ils contribuent à réchauffer l'atmosphère. Donc ils sont très efficaces pour... Donc on a ici des échanges de chaleur très actifs. Ici, vous avez le terme d'évaporation. Donc les noyaux d'évaporation, qu'on voit ici par exemple dans l'océan Pacifique, ce sont les noyaux des vents d'alizés. Plus que la température de l'océan, ça va être la vitesse de vent qui va en fait contrôler l'évaporation. Donc on trouve des évaporations très efficaces, des termes au-dessus des vents d'alizés. Et puis on en trouve également dans les courants chauds, les courants chauds. Donc on voit à la fois une trace des échanges, où là c'est l'atmosphère qui joue un rôle, et là c'est l'océan qui joue un rôle, c'est parce que l'océan est chaud qu'il évapore vers l'atmosphère. Donc dans les échanges océan-atmosphère, on trouve la trace de la dynamique océanique. Ceci configure une répartition de température et de sel assez originale. Vous avez ici la température, un schéma, un bloc diagramme de température, et ici un bloc diagramme de salinité. Donc ici le sud, équateur, nord, la profondeur moyenne de l'océan. Donc l'équateur est là et vous avez les eaux chaudes en marron ici. Et vous voyez que les océans ont une structure qu'on appelle en fait la structure en W, qui est caractéristique de l'océan, avec l'océan de fond communique entre eux, les eaux de fond. En revanche, on va avoir des eaux chaudes qui, elles, vont être restreintes bassin par bassin. Et le fait d'avoir cette remontée océanique, en fait, c'est la trace globale de ce processus de remontée d'eau profonde, d'upwelling, dont je vous avais parlé. Au niveau de la salinité, ce que vous avez, c'est une différenciation en fonction des zones précipitation-évaporation. Donc les noyaux d'évaporation seront marqués par une forte salinité. On les trouve dans les tropiques, de part et d'autre de l'équateur. Et au contraire, à l'équateur même et haute latitude, on a des flux d'eau importants et on a des eaux très dessalées qui vont pénétrer et qui vont remplir les eaux intermédiaires. Ce qu'il faut voir, c'est que la masse volumique dépend du sel et de la température et que le sel et la température n'ont pas du tout les mêmes traces dans l'océan. Les extrémas sont acquis en surface lorsqu'il y a échange avec l'atmosphère et ensuite ils pénètrent dans l'océan par les phénomènes d'advection et de diffusion avec des échelles de temps beaucoup plus lentes. Alors, la structure, je vous en ai parlé sans vous prononcer son nom, la fameuse région qui sépare l'océan de surface de l'océan de fond, c'est la thermocline. C'est une zone, en fait, où la température varie vite entre l'eau de surface, les eaux de surface qui sont relativement homogènes et les eaux de fond qui continuent à refroidir, mais où le gradient est beaucoup plus faible. Donc vous avez cette thermocline. Dans les tropiques, elle est quasiment permanente. Quand on est aux moyennes latitudes, on va distinguer une thermocline permanente qui va exister toute l'année et une thermocline qui va être saisonnière, qui va dépendre de la fluctuation des flux échangés entre l'océan et l'atmosphère en surface. Donc on aura des structures plus fines et plus saisonnières de profil. Là, c'est pour vous dire que dans la plupart des cas, la température et la masse volumique sont l'inverse l'une de l'autre. Quand on a une température chaude, on a une masse volumique qui est très faible. Et quand on a une température froide, comme dans les régions polaires, on a une masse volumique qui est beaucoup plus élevée. Donc on a une relation inverse. Mais intervient également la salinité. Il se trouve que la salinité dans les trois quarts des océans, elle joue beaucoup moins de rôle que la température. Mais il y a des régions dans lesquelles elle devient prédominante, en particulier les zones polaires et quelquefois dans certains processus à l'équateur. Alors, on a utilisé pendant très longtemps ces propriétés des extrémas pour caractériser les masses d'eau océaniques. Alors, vous avez ici un diagramme qui vous donne une section de l'Atlantique Nord, Atlantique Nord, Atlantique Sud, l'équateur est au milieu. Donc, en marron, en jaune, ici, vous avez les eaux de surface chaudes. Et puis, dans l'Atlantique Nord, je vous ai dit que c'était en surface qu'on crée les extrémas de sel et de température. Et on va caractériser une masse d'eau par sa valeur extrême en température et en sel. Donc dans l'Atlantique Nord, en fait, les masses d'eau qu'on regarde, c'est il y a une masse d'eau qui est formée ici dans le Nord, qu'on appelle NADW. C'est l'eau profonde nord-atlantique, donc la North Atlantic Deep Water. Et cette eau profonde est formée au nord, en subarctique. On a également une masse d'eau importante ici, vous avez marqué ici en bleu, qui est en fait la masse d'eau la plus dense à l'échelle mondiale. C'est celle qui est formée le long de l'Antarctique. C'est l'eau profonde, cette fois-ci, antarctique. Et c'est l'eau la plus froide que l'on observe. Puis vous avez des eaux qui sont formées ici, dans les zones frontales de l'Atlantique Sud, avec une eau qui est très caractéristique, qui est en fait l'eau intermédiaire antarctique, qui est caractérisée par un minimum de sel, et dont on suit la trace en fait, facilement dans l'Atlantique Nord. Alors pour vous montrer comment ont travaillé les océanographes pendant longtemps, ils prenaient leur bateau, ils allaient dans l'océan, puis ils faisaient une section. Et puis le long de cette section, ils mesuraient la température et la salinité. Et vous avez ici un tel exemple. Donc ici, vous avez la température, ici, vous avez la salinité. Et vous avez la trace de ce qu'a mesuré l'engin qui s'appelle la bathysonde. Donc les eaux de surface à 3000 mètres de fond. On descend comme ça au fur et à mesure dans la bathysonde. Et ce qui est reporté ici, c'est en fait les valeurs extrêmes des différentes masses d'eau caractéristiques de l'Atlantique à leur point de formation. Donc vous avez ici l'eau nord-atlantique profonde qui est représentée là, donc dans ses propriétés telles qu'elle a là. Et vous voyez qu'on la retrouve en fait ici, c'est cette masse d'eau-là, et elle a des propriétés qui sont très proches en fait de sa zone d'origine. C'est une eau dont on trouve la trace de manière très active dans l'océan Atlantique. On retrouve ici l'eau la plus froide en fait, proche de zéro, et avec très peu de sel, c'est l'eau antarctique de fond. Donc on était déjà éloigné ici, l'eau antarctique n'arrivait pas, elle influençait les propriétés de la masse d'eau par mélange. Et vous avez cette troisième masse d'eau qui est l'eau antarctique qui est là. Donc toute l'exploration et la description de la circulation océanique a été faite à partir de l'analyse de profils faits par des bateaux dans l'océan qui ont permis d'identifier quelles étaient les masses d'eau principales qu'on retrouvait partout et jusqu'où elles allaient par rapport à leur source. Donc quels sont les processus qui formaient ces masses d'eau? On en distingue deux. Le processus de convection, le premier. Alors, le processus de convection, c'est celui qui se produit, par exemple, dans des zones où on forme de la glace de mer. Quand la glace de mer se forme à la surface de l'océan, il se trouve que le processus de congélation extrait l'eau douce de l'eau de mer et rejette le sel en mer. Donc l'eau qui est rejetée va avoir sa quantité de sel augmentée. Comme c'est dans une région froide, la quantité de sel augmente, l'eau devient plus lourde. Donc à ce moment-là, on a le processus de convection qui se met en place et qui fait que les masses d'eau très lourdes formées en surface plongent au fond de l'océan et sont entraînées par la circulation profonde. Donc c'est ce qui se produit dans les sites qui sont marqués ici, le 1 et le 2. Ici, c'est la mer du Labrador. Ici, c'est la mer Norvège-Groenland. Ce sont deux régions qui sont identifiées comme étant des sites de convection profonde. Et ce sont les sites qui alimentent en fait l'eau profonde nord-atlantique. Alors, il se produit également de la convection le long du plateau, le long des plateaux continentaux. C'est le type de convection qui se produit le long du plateau ici en Antarctique, où il y a des zones de convection en plein océan. Il y en a l'ouverture quelquefois dans le pack qu'on appelle des polynias, comme en Antarctique. C'est ce qui se passe à cette région-là. Et plus proche de nous, dans une région où il ne se forme pas de glace de mer, mais par contre où il y a des événements de vent extrêmement forts, c'est en Méditerranée, ici. Il se produit de la convection dans une zone comme la Méditerranée occidentale. Et en Méditerranée occidentale, quand il y a plusieurs coups de mistral successifs, au mois de février-mars, on peut en fait évaporer très efficacement l'eau à la surface et on refroidit en même temps et on crée ce que l'on appelle, ce qui est représenté ici, vous avez la section d'eau totalement homogène depuis la surface jusqu'au fond. Donc ça se passe en hiver, on a la même masse d'eau depuis la surface jusqu'au fond et ce processus de convection, c'est ce qui alimente en fait l'eau de fond en Méditerranée. Et cette eau de fond en Méditerranée passe après dans l'Atlantique et on en trouve la trace en fait, elle vient se mélanger avec l'eau profonde nord-atlantique. Alors, il se trouve qu'en Méditerranée, elle a bien été suivie, cette eau, parce que quand la cheminée convective se produit, cette cheminée convective traverse une masse d'eau intermédiaire qu'on appelle l'eau levantine, qui vient du bassin oriental. Et cette eau levantine est caractérisée par une salinité forte et une température forte. Et quand la convection traverse, on voit vraiment la trouée de masse d'eau qui la traverse. Donc ça a été en fait une des régions où, parce que les masses d'eau étaient très différenciées, on a pu observer la taille critique de ces phénomènes de convection. Alors, le problème de la convection, c'est que c'est un phénomène qui se passe de quelques heures à quelques jours, qui est intermittent, qui ne se forme pas tous les ans exactement à la même place, donc, et en plus qui se produit dans des conditions rigoureuses. Soit il y a beaucoup de vent, soit on est en train de former de la glace et tout. Donc pendant très longtemps, il a été très très mal observé et les observations de la convection sont toutes très récentes. Et pourtant, c'est avec ça qu'on forme toute l'eau de fond et l'eau profonde des océans. Donc c'est un processus fragile, je reviendrai là-dessus. Alors il y a un deuxième processus qui fabrique des eaux dans l'océan, c'est la ventilation océanique. Donc cette fois-ci, vous avez un diagramme qui vous montre donc, la position moyenne de la thermocline. Ça, ce sont les eaux de surface. Et c'est dans des régions, à la fin de l'hiver, où on a des couches de mélange assez épaisses. Et dans les régions où il peut se produire une vitesse d'entraînement du vent, donc un rotationnel de vent négatif. À ce moment-là, il y a une circulation océanique qui pousse les eaux de surface vers le fond et qui les aide à pénétrer dans la thermocline. Et ce phénomène de pénétration des eaux de surface dans la thermocline, c'est ce qu'on a appelé la ventilation ou la subduction océanique. C'est ce qui permet de former les eaux de thermocline. Et ça se produit essentiellement en fait aux moyennes latitudes. Mais je ne vais pas aller plus loin sur ce phénomène-là. Disons que schématiquement, vous avez la façon dont fonctionne l'océan. Vous avez la convection aux hautes latitudes qui ventile toutes les eaux de fond, qui permet de ventiler les eaux de fond. Et vous avez les phénomènes de ventilation et subduction aux latitudes intermédiaires qui vous ventilent et qui vous modifient toutes les eaux de thermocline. Et puis ici, vous avez les eaux de surface. Alors, si on met en place l'ensemble de ces phénomènes, en fait, on peut les illustrer par ce qui a été baptisé le tapis roulant de la circulation générale océanique. C'est un diagramme qui est schématique, mais qui vous donne une idée de la manière dont l'océan s'ajuste avec les différentes échelles de temps impliquées. Donc ce diagramme, en fait, a voulu préciser quel pouvait être le schéma que pouvaient suivre des eaux océaniques d'un océan à l'autre. Alors si on part, par exemple, de cette région-là, ici vous avez le Gulf Stream, des eaux qui arrivent dans l'océan Atlantique, qui sont chaudes et salées. Il y a la dérive nord-atlantique qui permet de remonter vers le nord. Et puis quand une partie de ces eaux arrive dans les mers de Groenland, Norvège, il y en a une partie à ce moment-là qui se refroidit très vite, qui est impliquée dans le phénomène de convection et qui plonge au fond de l'océan. Alors quand on est en mauve, cette fois-ci, on est à 2000 mètres de fond, donc on passe de la surface à 2000 mètres et on revient sous forme d'un courant qu'on appelle le courant de bord ouest profond qui traverse tout l'Atlantique et qui maintient ces eaux vers 2000 mètres de fond dans l'océan Atlantique. Ensuite, ces eaux sont prises ici, autour de l'Antarctique, dans la circulation circumpolaire antarctique, et elles remontent par un phénomène de remontée lente dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien. Dans ces océans-là, elles remontent en fait dans les eaux de la thermocline, et dans les eaux de thermocline, elles reviennent en surface, et elles repassent après par les courants de surface à travers l'Indonésie, l'océan Indien, pour revenir en eau de surface chaude vers le Gulf Stream. Alors, cette boucle, je dirais un peu conceptuelle de la circulation, vous montre qu'il y a des zones clés dans l'océan. Il y a les zones de convection qui sont indiquées là. Il y a les zones de remontée vers l'équateur qui sont dans les océans équatoriaux. Il y a les zones de passage interocéan qui sont des zones critiques sur la manière dont vont pouvoir se faire ces différents transferts. Et puis, les échelles de temps associées à ce schéma doivent être différenciées. Le processus de convection, c'est un phénomène intermittent. Ça se passe à quelques kilomètres carrés dans des zones très petites et ça se passe pendant une ou deux semaines par an. Le phénomène d'advection des courants depuis le nord vers le sud, ça se compte en décennies. C'est en courant de bord ouest, de bord profond. Ça met à peu près 40 ans pour aller de l'Atlantique nord à l'Atlantique sud. Quand c'est pris après dans la circulation autour de l'Antarctique, ça peut être plusieurs dizaines d'années autour de l'Antarctique. Et puis ensuite, vous avez les remontées dans chacun des bassins par les eaux thermoclines. Là, on retrouve également des échelles de la centaine d'années. En revanche, quand on est dans les courants de bord ouest, cette fois-ci rapides, que ce soit les courants de bord ouest qu'on va trouver dans la branche ici, courant des aiguilles, ou que ce soit ici le courant du Gulf Stream, là, on a des circulations de l'ordre de quelques années pour remonter. Globalement, il y a eu des temps de transit qui ont été estimés pour savoir avec quel type d'échelle de temps on pouvait boucler ce transfert. Et on estime que c'est de l'ordre de 800 à 1000 ans pour pouvoir équilibrer ce genre de circulation à l'échelle globale. Donc les échelles qu'on trouve dans l'océan, aux latitudes tropicales, on a en fait une structure feuilletée des courants, un rayon beaucoup plus faible de déformation. On a une échelle caractéristique qu'on appelle le rayon interne de déformation, qui est de l'ordre de 300 km. On a une anisotropie des mouvements, suivant qu'on est le long de l'équateur ou au contraire perpendiculaire à l'équateur. Et en fait, la région équatoriale, où il y a des eaux chaudes, s'ajuste rapidement avec l'atmosphère en quelques mois. Quand on est aux latitudes tempérées, nos latitudes, le rayon interne de déformation qui caractérise en fait l'échelle de la turbulence est beaucoup plus fin. Il est cette fois-ci de 50 km. Ça va être également la taille critique qu'on aura sur les courants de bord ouest quand on attaquera les structures dynamiques comme le Gulf Stream ou le Crocio. C'est ça qu'on veut résoudre. Et là, on a des temps d'équilibre de l'ordre de la dizaine d'années. Aux hautes latitudes, on diminue encore. Alors, vous voyez cette valeur-là, cette caractéristique que je vous ai donnée, le rayon interne. En fait, il est de plus en plus petit quand on se rapproche du pôle parce qu'il dépend de F. Et plus F est grand, plus ce rayon interne est petit, puisqu'il apparaît en fait au dénominateur de l'expression du rayon interne de déformation. Et puis, aux hautes latitudes, on aura le processus intermittent de convection. Alors, quand on veut modéliser l'océan, quand on veut prendre en compte l'océan dans un système de couplage, de modèle couplé océan-atmosphère, il faut résoudre l'ensemble de ces échelles pour pouvoir prendre en compte ce qui se passe dans l'océan. Aujourd'hui, résoudre des phénomènes de cet ordre-là, de l'ordre de 10 à 30 km, mais intégrer pendant 1000 ans pour équilibrer la circulation du tapis roulant océanique, aucun ordinateur au monde ne sait le faire et ce ne sera pas encore pour les deux ou trois prochaines générations d'ordinateurs. Donc, chaque fois qu'on fait une approche numérique de la simulation océanique, on doit se donner une fenêtre, on doit choisir, on doit dire soit je résous les latitudes tropicales, mais dans ce cas-là, j'intègre pas très longtemps parce que ce qui m'intéresse est une dynamique rapide de l'ordre de quelques mois, soit je m'intéresse au contraire aux hautes latitudes, mais dans ce cas-là, je mets beaucoup de résolution. Et puis, j'intègre pas longtemps parce que je ne peux pas. Donc, je regarde pendant des fenêtres de l'ordre de quelques mois ce qui se produit. Et quand on attaque la circulation thermohaline globale, eh bien, on fait des modèles où on ne résout pas la dynamique des courants de bord ouest, par exemple, parce qu'on n'a pas de quoi résoudre à la fois spatialement et temporellement. Donc, on est toujours obligé de faire des compromis, et ce qui fait qu'aucun modèle ne peut respecter l'ensemble de ces phénoménologies. Alors, si on veut regarder un peu comment l'océan intervient dans le climat, je vais vous illustrer ça par plusieurs exemples, en fait, d'échelles différentes, en commençant par l'événement le plus spectaculaire, qui est en fait l'anomalie El Niño dans les tropiques. Cette fois-ci, on va être en système où l'océan et l'atmosphère vont réagir, et chacun avec leurs échelles de temps et d'espace qui sont différentes. Donc, quand on regarde El Niño, c'est malheureusement accompagné de catastrophes un peu partout, tant des catastrophes de sécheresse comme ce qui peut se produire en Indonésie, Australie, que des catastrophes qui sont au contraire des pluies diluviennes qui se produisent en Amérique du Sud ou Amérique centrale. Et ceci est lié à une perturbation majeure en fait du système atmosphère et océan, puisque quand le système est dans son état normal dans l'océan Pacifique, on a une circulation qui est la circulation des alizés en surface. On a dans le Pacifique Ouest, qui est une région extrêmement chaude, d'eau chaude, on a un développement de convection, nuages et précipitations, et on a une ascendance atmosphérique. On a un retour du flux dans la partie haute de la troposphère vers l'Est. Et ici, on a au contraire un phénomène de subsidence qui se produit sur la région, en fait, Équateur-Pérou. Donc on a cette circulation-là dans l'atmosphère, cette circulation qu'on appelle la circulation de Walker. Dans l'océan, on a des eaux chaudes ici, et ça entretient la convection. Et dans cette partie-là de l'océan, c'est la partie où, vous voyez, on a les isothermes qui remontent. Donc, c'est la région de remontée d'eau froide océanique, c'est la région d'upwelling. Et en fait, la zone de subsidence atmosphérique correspond à une région d'eau froide dans l'océan. Donc, ici, on a des eaux froides. Quand on est en anomalie d'El Niño, à ce moment-là, les alizés disparaissent, peuvent aller jusqu'à disparaître. Toutes les eaux chaudes se répartissent uniformément dans l'océan Pacifique. On a des eaux chaudes d'est en ouest, donc on n'a plus de différence de température de part et d'autre du Pacifique. Et en fait, la convection peut se produire n'importe où dans l'océan Pacifique. Donc on a une augmentation de la convection dans la partie centrale et est de l'océan Pacifique. Alors dans l'océan, ça correspond au fait qu'ici, on a une thermocline très pentue et une accumulation d'eau chaude en surface avec une accumulation d'eau chaude ici. Et que là, au contraire, on a un régime plat, ce qui est un phénomène très différent. Donc les cartes en termes d'anomalie, vous avez ici représenté le signal El Niño en termes d'anomalie de température. En termes d'anomalie de température, les régions qui étaient des régions froides deviennent des régions chaudes. Donc vous avez cette fameuse anomalie en triangle avec un maximum d'anomalies ici en température. Et en précipitation, vous avez une accumulation de précipitations depuis le Pacifique central jusqu'à la côte qui se manifeste là, alors qu'au contraire, on assèche toutes ces régions-là autour de l'anomalie de précipitation. Donc c'est le numéro 1, un phénomène couplé qui se développe ensemble dans l'océan et dans l'atmosphère. Et c'est un phénomène qui a en fait une histoire parce qu'il ne se produit pas de manière instantanée. Il se développe et vous avez ici une illustration de son développement. Alors une phase de développement rapide, vous avez ici observé par Topex Poséidon. Donc ça c'est une observation spatiale depuis l'altimètre Topex Poséidon depuis l'espace qui mesure l'élévation du niveau de la mer. Donc en rouge ce sont des élévations positives. En bleu, ce sont des élévations négatives. Donc en 97, il s'est produit un El Niño majeur et vous avez ici sa phase de déclenchement pendant le printemps 97. Donc au mois de mars, vous avez en fait une anomalie du niveau de la mer de part et d'autre de l'équateur dans le Pacifique Ouest. Et puis en avril, extrêmement rapidement, cette anomalie en fait s'est propagée depuis l'ouest du Pacifique jusqu'à l'est. Et cette trace que vous voyez là, c'est exactement l'équateur. C'est un phénomène en fait d'onde océanique qui suit l'équateur, qui est très très bien visualisé en fait par l'anomalie Topex Poséidon. Et une fois que l'anomalie s'est mise en place dans l'océan Pacifique, à travers le Pacifique, elle s'amplifie par un phénomène de couplage instable entre l'océan et l'atmosphère. Donc pendant les mois de mai, juin, elle gagne de l'amplitude et en fait elle va gagner de l'amplitude jusqu'à la fin de l'année. Et elle culmine au mois de décembre, janvier, février, donc 97-98. Et dans sa phase de maturité, qui est la phase du El Niño complètement développé, eh bien on retrouve la caractéristique, les deux indices en fait qui caractérisent El Niño. L'indice qu'on a appelé El Niño, qui est l'indice océanique, qui est l'anomalie de température, avec cette fameuse forme en triangle. Et puis l'indice qu'on a appelé l'oscillation australe, qui lui est un indice atmosphérique, qui mesure l'anomalie de pression au niveau de la mer. Alors dans le Pacifique sud-est, où on a une anomalie négative, et dans le Pacifique ouest, où là on a une anomalie positive. Et le fait d'avoir cette anomalie en dipôle entre le Pacifique est et ouest, en fait, ça, comme la force des alizés est proportionnelle au gradient de pression entre ces deux régions, quand on a une anomalie négative ici et positive ici, ça veut dire qu'on n'a en fait plus de gradient de pression et que les alizés se sont effondrés. Donc ça mesure l'intensité de l'anomalie des alizés sur le Pacifique. Donc, ça, c'est donc montrer que El Niño a plus d'un an, qu'il a une phase mature, qu'il a une initiation. Et vous avez ici un diagramme qui vous montre en fait la répartition des El Niño depuis 1940 jusqu'à l'an 2000. Vous avez les El Niño majeurs, ça c'est le 82-83. Ici, vous avez le 97. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de questions à propos d'El Niño parce que les événements de 82-83 et 97 avaient une amplitude nettement supérieure aux événements qui avaient été répertoriés dans les années précédentes. Donc il y a eu des questions et elles ne sont pas résolues, c'est encore complètement ouvert, de savoir si cette évolution d'amplitude d'El Niño était oui ou non liée à un signe de changement climatique ou pas. Et il y a eu des analyses spécifiques qui ont été faites à partir des modèles du quatrième rapport du GIEC qui est paru cette année, qui ont essayé de comprendre comment va évoluer El Niño dans le siècle prochain, dans le changement climatique. Et il n'y a pas aujourd'hui de consensus entre les modèles qui sont capables de nous dire est-ce que oui ou non El Niño va être amplifié ou pas par le changement climatique. Donc il n'y a pas qu'El Niño, dans les autres océans équatoriaux, il y a d'autres anomalies. Je présente des exemples. L'Atlantique, on a une autre anomalie tropicale forte, qui n'est pas interannuelle comme El Niño, mais qui est à beaucoup plus longue échelle de temps. On a un développement d'anomalies froides ici au sud de l'équateur, anomalie chaude au nord. Et quand cette anomalie se développe, ça s'accompagne d'un renforcement des vents, de la pénétration des alizés dans l'hémisphère nord. Et vous avez ici la trace de cette anomalie. Alors cette fois-ci, vous voyez, on a un événement dont l'échelle, c'est par exemple ici de 76 jusqu'à 86, c'est ce qu'on appelle l'anomalie décennale atlantique. Donc là, ici, on a affaire à une anomalie d'échelle de temps beaucoup plus longue qui se manifeste dans l'océan Atlantique et qui influence beaucoup tout l'Atlantique et les régions environnantes. Donc on essaie de détecter, mais pour ça, il faut être capable d'avoir des mesures assez longues et pouvoir remonter dans le temps. Dans l'océan Indien, il y a eu une controverse ces dernières années sur ce qui peut s'y produire. Et c'est illustré là par un événement qu'on a appelé l'événement dipôle de l'océan Indien, qui se manifeste par des eaux froides dans cette partie-là et des eaux chaudes ici. Et quand cette anomalie se met en place, on a à ce moment-là des vents qui se mettent à souffler dans ce sens-là, sur l'océan Indien, ce qui est une anomalie. Parce que les vents moyens de l'océan Indien, c'est au contraire des vents qui sont liés à la mousson de sud-ouest et qui vont vers l'est. Donc là, on est vraiment dans un régime d'anomalie. Vous voyez, l'état anormal de l'océan Indien, en fait, c'est l'état normal de l'Atlantique et du Pacifique. Hein, c'est comme ça qu'on le définit. Et puis, dans l'océan Indien, il y a eu plusieurs années d'anomalies qui ont été répertoriées, 61, 94, 97. Alors, 97 a été extrêmement particulier, parce qu'il se trouve qu'en 97, on a eu en fait un couplage de phases entre le Pacifique et l'Indien. Et cet événement indien, en fait, a été totalement lié à l'événement El Niño-Pacifique de 97. Donc, on a eu une amplification entre les deux océans. Mais quand on regarde en fait l'ensemble de la série temporelle, on ne peut pas montrer de coïncidence entre ce qui se passe dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Donc on pense que cette coïncidence de phase d'anomalie entre les océans reste assez exceptionnelle. Alors plus proche de nous, on a des modes couplés, on a des modes, pardon, mais alors là, on ne sait pas s'ils sont couplés océan-atmosphère. C'est typiquement l'oscillation nord-atlantique. Alors l'oscillation nord-atlantique est définie par en fait la différence de pression entre cette zone de dépression qui se situe là au large du Groenland et puis la zone de haute pression des Açores. Alors quand cette zone a une faible différence de pression, la trajectoire des tempêtes est très zonale et ramène beaucoup d'humidité dans la région méditerranéenne. Et au contraire, quand cette anomalie est forte, quand cette différence de pression est forte, on incurve à ce moment-là la trajectoire des tempêtes vers le nord de l'Europe. Donc on a tendance à assécher le bassin méditerranéen et à provoquer les précipitations vers la partie nord de l'Europe. Alors vous avez ici la série temporelle de cette anomalie de pression entre ces deux points qui est représentée. Donc c'est ce qu'on appelle l'indice NAO. Et vous avez ici la série temporelle qui vous montre que en fait il y a des phases d'anomalie positive puis des phases d'anomalie négative. Et ce qui a été noté en particulier, c'est que bon, pendant les années 60-70, on était en phase négative. Et en fait, depuis la fin des années 70, on est passé en anomalie positive et on y est resté. Donc on a aujourd'hui toujours une prédominance d'anomalies positives dans la région Atlantique Nord. Et on s'est posé la question de savoir si cette prédominance des anomalies positives dans l'Atlantique Nord était oui ou non une trace du changement climatique et si oui ou non quelles pouvaient être les précurseurs. Et on a regardé certaines régions de l'océan. On n'a en particulier regardé des précurseurs océaniques dans cette région-là qui pourraient être un candidat pour cette partie Atlantique Nord. Alors, autre exemple d'accident climatique, ça nous emmène cette fois-ci, mais beaucoup plus loin dans le temps. Je vais vous donner un exemple. Cette fois-ci, pendant le dernier cycle glaciaire. Donc, vous avez ici une courbe en temps qui a été prise un forage. C'est le forage de North Grip au Groenland. Ici, c'est le temps présent. Puis, vous remontez dans le temps, donc 20 000 ans, 40 000 ans et tout, jusqu'à 100 000, 120 000 ans. Et quand on remonte dans le temps, donc ici, c'est le temps chaud, le dernier interglaciaire qu'on est en train de vivre. Et puis, le dernier glaciaire qui arrive il y a 8 000 ans, 20 000 ans, on était très froid, on est resté froid. Mais vous voyez que pendant cette époque de climat froid, on avait des oscillations de température très, très fortes. Et ces oscillations de température qu'on observe là, on s'est vraiment posé la question de savoir quelle en était l'origine. Alors, dans l'océan, on trouve également des oscillations de température. Et en particulier dans l'océan, on a appelé ces oscillations de température les événements d'Heinrich. Donc les événements d'Heinrich correspondraient à des débâcles de la calotte qui entraînent en fait des particules détritiques terrestres sur l'océan. Et ce qui fait que quand on fait un forage dans l'océan, quand se produit cette débâcle glaciaire, les sédiments sont des sédiments minéraux, alors que normalement on trouve des squelettes de plancton. Donc dans la carotte océanique, on passe de ces structures planctoniques à des minéraux, et on interprète ces séquences-là en disant c'est l'époque où il y a eu un largage de calottes d'iceberg depuis la calotte sur l'océan, et donc on peut avoir des événements qui permettent des grandes ruptures d'instabilité de calotte qui perturbent les circulations océaniques et qui perturbent ce que l'on a appelé le tapis roulant océanique. Donc vous voyez, à toute échelle de temps, on voit que l'océan peut intervenir dans le système. Donc je vais donc vous déduire de là quelles peuvent être les questions qu'on peut se poser pour le siècle à venir. Alors en commençant par dire qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le niveau de la mer quand on prend les projections. Donc les projections sont construites en utilisant les scénarios socio-économiques qui ont été sélectionnés en fait pour le GIEC. On utilise des scénarios qui prennent en compte l'évolution de la démographie, qui est donné ici, l'évolution de l'économie, des conditions d'économie, les conditions d'environnement, de la conscience environnementale des populations, l'équité entre le Nord et le Sud en particulier, les développements technologiques et en fait la mondialisation des échanges. Donc tous ces facteurs-là ont été pris en compte pour construire différents scénarios qu'on a appelés A1, A2, B1, B2, suivant leur degré de conscience de ces différents facteurs. Donc les scénarios pour le GIEC, une fois qu'on a un scénario socio-économique, on est capable, à partir de ce scénario, d'en tirer le type d'émissions en CO2 qu'on pourra faire. Et vous avez donc ici la concentration en CO2 dans l'atmosphère suivant les différents scénarios. Alors, scénario B1, c'est un scénario où on a la mondialisation environnement, où on a réussi à baisser la démographie. Donc, c'est le scénario le plus optimiste, c'est celui-là. Et puis le scénario de type 1-2, c'est les scénarios pessimistes. Donc vous avez ici le scénario A1F1, qui est en fait le scénario le plus pessimiste qui est donné là. Donc une fois que ces scénarios ont été traduits en concentration de CO2, on impose en fait ce niveau de concentration de CO2 dans un modèle climat, et on en calcule le comportement au niveau du climat. Vous avez ici par exemple les scénarios qui ont été imposés, donc ici le B1, ici le A1B qui est un scénario intermédiaire, ici le A2, le A rouge. Et puis vous avez ici l'ensemble des modèles du GIEC sur ces scénarios, donc le scénario le plus optimiste, l'intermédiaire et le scénario le plus pessimiste pour l'instant qui a été joué. Donc ça c'est la courbe moyenne, c'est celle de la moyenne des modèles, et vous avez l'enveloppe qui est liée aux différents modèles. Jusqu'à 2050 en fait, tous les scénarios à peu près se valent. Par contre, on a beaucoup de divergences entre les courbes après 2050, et que la divergence entre les scénarios, en fait, est plus importante que la divergence entre les modèles eux-mêmes. Donc c'est vraiment le choix de notre comportement, je dirais, de société qui va influencer beaucoup la différence. Les modèles, eux, convergent maintenant dans leurs résultats. Le scénario qui est représenté ici, c'est celui où on aurait, par miracle, était capable de maintenir la concentration 2000 constante, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas bougé, on n'aurait pas été capable, on aurait restreint notre consommation à ce qui avait été fait en l'an 2000. Et même si on impose cette concentration constante, on continue à réchauffer. Et ça, c'est lié au fait que justement, dans le système, dans ces six modèles-là, on a un océan, on a de la biosphère, donc on a aujourd'hui un système qui n'est pas équilibré entre sa dynamique et sa biogéochimie. Donc même si on était capable de contenir la concentration en CO2, on va continuer à augmenter la température, bien moindre, mais on est parti sur une courbe de réchauffement. Donc ça, c'est l'exemple de distribution des deux modèles français, hein, le modèle de Météo France, le modèle de l'IPSL, avec le scénario élevé et le scénario faible. Et c'est essentiellement pour vous montrer qu'on a le même genre de réponse. Alors bien sûr, plus d'amplitude quand on est en A2 qu'en B1, c'est normal, hein, on l'a vu que les courbes se séparaient vraiment, mais la distribution, elle, bon, ben, elle est bien la même. On a un maximum de réchauffement sur les zones polaires, les continents qui se réchauffent plus que les océans, et une distribution en fait, qui est très consistante d'un modèle à l'autre. Donc sur la température, les modèles donnent de bons résultats. Regardons un peu l'océan. On mesure le niveau de la mer à partir du réseau de marégraphie. On a des sites où on a plus d'une centaine d'années de mesure de l'océan. Donc ici, vous avez une série temporelle qui remonte à 1840 jusqu'à l'an 2000. Et la courbe bleue, c'est la courbe qui est directement tirée du réseau d'océanographie qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est relativement bien homogène sur l'ensemble des océans. Et puis quand on remonte dans le temps, on est obligé de compléter cette connaissance-là par des statistiques, parce qu'on n'a pas assez de sites pour tout reconstruire, donc on le complète avec des statistiques, et c'est ce qui nous permet de remonter un petit peu plus loin dans le temps. Et puis depuis 10 ans, un petit peu plus, 15 ans maintenant, on a l'altimétrie qui nous permet d'avoir la couverture globale. Maintenant qu'on connaît la distribution globale du signal au niveau de la mer, c'est de regarder la répartition spatiale du niveau de la mer. Donc cette répartition spatiale montre que, ici en rouge, ce sont les régions où le niveau de la mer augmente. En bleu, ce sont les régions où le niveau de la mer diminue. Et ça, c'est à l'échelle entre 1993 et 2004. Donc, on a en fait des questions qui ont été posées par cette distribution du niveau de la mer. Alors, que le niveau de la mer n'augmente pas partout de la même manière, c'est normal, puisque le niveau de la mer, avant tout, reflète un équilibre de la position de l'océan. Donc, si la dynamique de l'océan est modifiée, et ça, on s'attend à ce que la dynamique de l'océan soit modifiée dans un changement climatique, eh bien, à ce moment-là, les pentes vont changer entre l'est et l'ouest de l'océan. Par exemple, quand on a un phénomène d'anomalie majeure comme El Niño, la pente du Pacifique change de 60 cm. Donc, c'est pas la topographie de l'océan est liée à sa dynamique. Donc, si on modifie l'axe du Gulf Stream, si on modifie l'axe du Kuroshio, on va modifier la répartition de cette pente. Et ça, c'est quelque chose auquel on s'attend. Mais plus que la variabilité interannuelle, on voudrait savoir quelles sont les tendances et qu'est-ce qui va persister pendant longtemps. En plus, il y a eu ce qui a été montré là, c'est l'accélération de cette tendance. Entre les années 61 et 2003, on a mesuré une tendance à l'augmentation qui était de 1,8 mm par an, alors que sur les 10 dernières années, depuis qu'on a une couverture beaucoup plus importante, on a mesuré une tendance de l'ordre de 3. Donc on s'est posé la question de savoir si le taux, la différence entre ces tendances, est-ce que c'était une marque de la variabilité basse fréquence de l'océan, parce que l'océan change. Je vous ai dit qu'il changeait à l'échelle interannuelle, il change également à l'échelle décennale. Donc est-ce que c'est une marque de la variabilité interannuelle ou de basse fréquence, ou est-ce que c'est réellement le signe de tendance? Donc ça, c'est toujours une question ouverte. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre avec précaution aujourd'hui ce qu'on sort en termes de projection sur l'océan. Alors, en termes de projection, les chiffres issus du rapport du GIEC sont donnés ici. Donc, pour le scénario, donc c'est des chiffres qui vous donnent l'anomalie en termes de niveau de l'océan pour la fin de ce siècle, pour entre 2090-2099. Pour le B1, on aurait entre 0,18 et 0,38 cm. Pour le 1F1, qui est le scénario le plus élevé, on aurait entre 0,26 et 0,59 cm. Il faut savoir que ces chiffres-là considèrent la dilatation de l'océan, l'effet de dilatation de l'océan qui est dû au réchauffement de la mer, et il considère également un taux de fonte qui a été calculé sur les dernières décennies et qui est considéré constant. Or, s'il y a une accélération de fonte des calottes, ça n'est pas pris en compte dans cette estimation. Donc aujourd'hui, on peut considérer que ces chiffres-là sont une estimation basse de la montée du niveau de la mer. Je vous ai parlé de l'océan dynamique, mais je ne vous ai pas parlé de l'océan biologique. Juste deux mots là-dessus. Si l'océan se réchauffe, il va y avoir des impacts sur les écosystèmes marins. Alors, je ne vais pas tous les passer en compte, il y en a de multiples. Je vais juste vous l'illustrer par un phénomène, qui est le phénomène qui est observé dans ces endroits marqués par des points rouges. C'est le phénomène de blanchiment du corail. Quand l'océan se réchauffe de 1 degré, pour le corail, pour de nombreuses espèces de corail, ça signifie en fait la mortalité. Donc ça signifie réellement de changer d'écosystème. Or, il n'y a eu aucun événement de blanchiment avant les années 79. Il y en a eu plus de 6 depuis 79. Et en fait, on considère que depuis les années 1980, on a à peu près 30% des réserves au niveau corail qui ont déjà disparu. Donc avec un réchauffement global de la planète et pas très élevé dans les régions tropicales, on peut décimer le corail de ces régions. Autre exemple, c'est que l'océan, au fur et à mesure que la concentration en CO2 va augmenter dans l'atmosphère, eh bien elle va également augmenter dans l'océan. Et quand la pression partielle de CO2 va augmenter dans l'océan, eh bien ce qui va se produire, c'est que le pH de l'océan va diminuer. Et au fur et à mesure que le pH de l'océan va diminuer, eh bien l'océan va s'acidifier. et la signification de l'océan est potentiellement importante pour que certaines structures, certaines tesses calcaires que fabriquent des écosystèmes océaniques, des structures océaniques, puissent exister. Donc on ne sait pas en fait ce qui deviendra de toutes ces espèces dont le test calcaire est aujourd'hui en équilibre avec l'acidification en fait du milieu et qui pourraient ne pas subsister ou au moins auront à s'adapter ou transformer leur mode de vie dans un nouveau système. Donc ça pose beaucoup de questions sur tous ces problèmes océaniques. Autre point, mais cette fois-ci dynamique, je vous ai expliqué ce qui intervenait là-dessus. Je ne vous ai pas montré en revanche la complexité de la convection telle qu'elle se produit aujourd'hui dans l'état actuel de l'océan. Donc on a la fameuse branche, la dérive nord-atlantique qui arrive ici et qui alimente en partie le courant de Norvège, qui alimente également une autre branche qui vient en fait joindre cette circulation cyclonique qu'on a en subantarctique. Et ça, ce sont les courants chauds qui refroidissent au fur et à mesure qu'ils montent, bien sûr. Et vous avez indiqué ici par ces petites boucles les régions potentielles où on forme de la convection océanique. Donc c'est les régions potentielles où on peut former l'eau de fond dans l'océan. Donc vous en avez en mer du Groenland, vous en avez en mer de Norvège, vous en avez également en mer du Labrador et vous en avez en mer d'Irminger. Donc c'est des régions potentielles où vous fabriquez de l'eau profonde. Donc vous voyez qu'à l'échelle de cette circulation-là, c'est des régions toutes petites qu'on a identifiées comme étant aujourd'hui des sources potentielles de l'océan profond. Dans un monde qui change, on s'attend à ce que ça change. Alors, vous avez ici la valeur en fait du flux de masse à cet endroit-là, dans l'océan Atlantique, mesurée dans les différents modèles. Et vous avez ici la valeur observée. Donc la valeur observée en moyenne, ce flux de masse qui est lié au tapis roulant dans l'océan, c'est marqué ici, c'est de l'ordre de 15 sphères drop. C'est la valeur qu'on a dans les années 80-2000. Vous avez ici en fait les différents modèles sur le 20e siècle et le 21e siècle, avec cette fois-ci prise en compte des différents concentrations d'augmentation en gaz à effet de serre. Donc vous voyez que tous les modèles ont tendance à partir de la fin du siècle à baisser. Et ça veut dire que aujourd'hui, la plupart des modèles semblent dire qu'il y aurait un ralentissement de cette circulation de ventilation en fait, de tapis roulant dans sa boucle nord, ici. Ce que je voulais vous faire remarquer aussi, c'est que les modèles ont énormément de difficultés à représenter cette phénoménologie, puisque la barre des modèles là, excède de loin la barre des observations. Donc c'est un phénomène qui est très très dur à représenter, et ça vient du fait, je vous l'ai dit, que les modèles d'océan, on ne pouvait pas prendre toutes les phénoménologies en compte, et les modèles d'océan qui sont utilisés pour faire les projections climatiques, ils ont en général des mailles de modèles de l'ordre de 100 à 200 km. Or là, on atteint des phénomènes pour lesquels il faudrait résoudre les tailles des cheminées convectives qui, elles, sont inférieures à 10 km. Donc on ne peut pas les représenter explicitement, on les paramétrise et on a des faiblesses dans cette paramétrisation en particulier. Donc ça illustre bien qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur la résolution de tels processus dans l'océan. Et pour vous montrer un peu les conséquences de cette région-là, là c'est un résultat de Didier Zinjdou et de ses collaborateurs qui ont regardé ce qui pouvait se produire sur la circulation océanique dans un monde à deux fois CO2, deux fois la quantité actuelle, tel qu'on le verrait dans 4 à 5 siècles. Donc on a prolongé plus loin dans le temps cette simulation. Et ils ont fait une simulation où l'une où les calottes étaient maintenues telles quelles et l'autre où ils ont fait fondre la glace des calottes. Donc là, c'est la différence entre deux simulations avec et sans fonte de calottes. Et ce qui se produit, c'est que si vous laissez fondre la calotte, vous faites envahir d'eau douce à la surface de l'océan. Et quand il y a de l'eau douce à la surface de l'océan, vous empêchez le phénomène de convection de se produire. Donc vous empêchez en fait la convection de se produire dans ces latitudes-là. Et à ce moment-là, vous voyez, on a des différences de température, notamment dans cette région-là, qui peuvent atteindre jusqu'à 10 degrés dans la partie nord de l'Europe, suivant qu'on prend en compte ou pas la fonte de la calotte. Alors dans ce modèle, en fait, on n'arrête jamais la circulation thermohaline, on l'a toujours, mais elle est nettement moins efficace, en particulier elle ne pénètre plus dans l'océan Arctique, et à ce moment-là, on commence à fondre la glace, et quand on a commencé à fondre la glace, on a une rétroaction océan-glace-atmosphère qui est très forte, et qui fait qu'on a des modifications de température jusqu'à 8-10 degrés dans ces régions-là. Alors maintenant, dans un monde qui deviendrait froid parce qu'on fondrait beaucoup plus vite les calottes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on limite le réchauffement là, mais on est toujours dans un monde chaud. Donc on n'arrive pas à changer le signe en empêchant en fait l'efficacité de la circulation du réchauffement dans l'attitude nord par l'océan. On n'arrive pas à contrebalancer le réchauffement lié au climat dans ce modèle. Donc c'est extrêmement important de bien prendre en compte l'ensemble de ces phénomènes-là pour savoir ce qui va se passer en Europe. Mais on ne modifiera pas complètement le réchauffement climatique avec ça. Alors, juste pour conclure, hein, donc ce qui nous a justifié, nous, ce qui nous a amené à mettre un océan maintenant aujourd'hui sous surveillance, donc on a utilisé tout ce qui était possible au point de vue des mesures in situ, au point de vue du spatial, pour rassembler l'ensemble des mesures faites dans l'océan, les mettre dans un modèle et faire en sorte qu'on puisse maintenant suivre l'océan global partout. C'est ce qui est en cours dans le projet Mercator, le système Mercator, qui est en cours de développement. Dans ces systèmes-là, on va pouvoir suivre la température, la salinité, les courants, la dynamique, tant en surface qu'en subsurface, et on pourra décrire complètement ce qui se produit et le suivre à la semaine. Et ça, c'est une base extraordinaire pour pouvoir améliorer les modèles, valider les projections et avoir une meilleure compréhension de ce que pourra faire l'océan dans le climat de demain. Donc je voudrais juste conclure pour vous dire que l'océan, c'est un immense réservoir d'eau, d'énergie, de biomasse, et qu'on a des nouveaux moyens d'exploration qui sont à la fois depuis l'espace et à la fois in situ, et qu'en combinant ces moyens avec les modèles, on a maintenant la possibilité de vraiment suivre toutes les phénoménologies qui se passent dans l'océan. Donc la prévision océanique, c'est vraiment un enjeu majeur, et on doit aujourd'hui surveiller l'océan au même titre qu'on surveille l'atmosphère ou la qualité de l'air. De par sa masse et sa capacité thermique et chimique, en fait, l'océan joue un rôle primordial, et on l'a vu dans plusieurs échelles du climat terrestre. C'est un acteur majeur du climat, et c'est un temporisateur de la variabilité. Et ça, on le voit aux échelles interannuelles et saisonnières. Et il est à même de nous réserver des surprises. Ça a été vu dans les événements du passé. Reste à savoir ce que nous promet l'avenir. Ce qui est maintenant clair aussi, c'est que au niveau de l'océanographie, on l'aborde pas l'océan seul, mais on l'aborde toujours en pleine interaction avec l'atmosphère, avec les continents et tout. Et on a vraiment besoin, en fait, d'avoir une approche intégrée du milieu pour comprendre ce que nous réserve la planète dans les siècles à venir.
Vous venez d'entendre Pascal Delecluse, directeur adjoint à la recherche à Météo France, sur le thème des courants océaniques et de leur rôle sur les perturbations climatiques. Cette communication s'est déroulée en novembre 2007 à l'Institut de France, organisée par le Bureau des Longitudes. Nous vous invitons à poursuivre l'écoute de nos émissions sur Canal Academy, avec notamment les conférences organisées par ce même Bureau des Longitudes. Vous trouverez dans nos archives en libre téléchargement une émission consacrée à la fonte des glaciers, des glaciers continentales et des glaces de mer, ainsi qu'une conférence sur les planètes telluriques. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions.